Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal de la Radio des Nations Unies. Ban Ki-moon consterné par l'attaque contre l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo. Le Conseil de sécurité a examiné la situation au Mali en présence d'Hervé Latsous et d'Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères. Et suite de nos prospectives 2015, aujourd'hui le Soudan du Sud. Au micro, Jean-Pierre Amissi Ramazani. On commence ce journal avec la fusillade qui a éclaté à Paris au siège de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo ce mercredi 7 janvier à la mi-journée. Des hommes armés ont pénétré dans les locaux et ont tiré avec des armes automatiques avant de s'enfuir. Au total, 12 personnes ont été tuées lors de l'attaque, a indiqué le parquet de Paris. Une vingtaine de personnes ont également été blessées, dont 4 grièvement. On enregistre déjà plusieurs réactions, dont celle de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, depuis New York, devant la Association des journalistes correspondants de l'ONU.
Je suis consterné et profondément bouleversé par l'attaque contre Charlie Hebdo ce matin à Paris. Cette attaque de violence ne peut en aucun cas être justifiée. Il s'agit d'une attaque contre la liberté d'expression et la liberté de la presse, deux piliers de la démocratie. Cette attaque vise à diviser. Nous ne devons pas tomber dans ce piège. Je tiens à exprimer ma solidarité avec le gouvernement et le peuple français. Mes pensées vont aussi aux familles et proches des victimes.
Le Conseil de sécurité s'est réuni mardi 6 janvier pour examiner le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali. Cette réunion s'est déroulée en présence d'Hervé Latsous, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de maintien de la paix, et d'Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Hervé Latsous, qui a présenté ce rapport, a déclaré entre autres qu'alors que les parties maliennes doivent se réunir début février pour faire le point sur le projet d'accord de paix, le processus de paix intermalien est à un stade crucial. On l'écoute sur la situation au nord du Mali.
La situation sécuritaire dans le nord du Mali demeure extrêmement volatile, extrêmement préoccupante et crée des défis constants à la restauration de l'État dans le nord du Mali, crée des obstacles à la protection des droits de l'homme, crée des obstacles à l'acheminement de l'assistance humanitaire ainsi que des programmes de développement. Le rapport du secrétaire général donne un maximum d'informations sur tous ces problèmes et aussi sur le déploiement de la MINUSMA dans le nord du Mali où, encore une fois, les menaces contre la sécurité de ses personnels demeurent extrêmement élevées.
Et puis le dernier rapport du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, indique qu'au cours des 6 premiers mois de 2014, les guerres et conflits au Moyen-Orient, en Afrique et ailleurs ont déraciné environ 5,5 millions de personnes. Cela constitue une nouvelle hausse du nombre de personnes déplacées de force. Jérôme Longuet.
Le rapport du HCR montre que 5,5 millions de personnes ont été nouvellement déplacées durant les 6 premiers mois de 2014. Ainsi, en tenant compte des populations déplacées, des retours volontaires et des efforts de réinstallation, fin juin 2014, le nombre de personnes aidées par le HCR s'élevait à 46,3 millions, soit 3,4 millions de plus qu'à la fin de 2013. Autre constat, les Syriens sont devenus la plus grande population de réfugiés assistés par l'agence, dépassant les Afghans qui occupaient cette place depuis plus de 30 ans. Avec plus de 3 millions de réfugiés, les réfugiés syriens représentent maintenant 23% de tous les réfugiés aidés par le HCR. Les autres principaux pays d'origine des réfugiés sont la Somalie, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, le Myanmar et l'Irak. Avec 1,6 million de réfugiés afghans, le Pakistan, quant à lui, reste le plus important pays d'accueil, suivi du Liban, de l'Iran, de la Turquie, de la Jordanie, de l'Éthiopie, du Kenya et du Tchad.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Suite de nos prospectives 2015, aujourd'hui, plein feu sur le Soudan du Sud, avec Toby Lanzer, le coordinateur humanitaire des Nations Unies au Soudan du Sud. Il est l'invité de Christina Silvero.
On est entré en 2015 avec un bilan de 2014 qui est très, très, très grave pour le pays. On a eu presque 2 millions de personnes déplacées de leur foyer, des gens qui ont perdu leur travail, dont 500 000 qui ont pris fuite jusqu'aux pays autour du Sud-Soudan, des pays comme le Soudan, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Kenya. une situation économique au Sud-Soudan qui est vraiment très, très faible, avec une production pétrolifère qui a baissé plus que 50% en comparaison avec 2013. Donc, une situation très grave et on n'est pas sûr qu'il y a la paix qui arrive bientôt. Donc, on entre 2015 avec une situation humanitaire très grave, avec une situation politique très compliquée et sans savoir s'il y a vraiment une solution qui nous attend bientôt.
Donc, un démarrage très difficile. Quelles vont être les priorités pour 2015, étant donné la situation ?
Écoutez, je pense que la première priorité pour tout le monde au Sud-Soudan, c'est la paix. Et j'espère bien que les leaders politiques ici, des deux côtés de ce conflit interne, qu'ils sont conscients de ça, qu'ils font tout le possible pour trouver la paix. Parce qu'avec la paix, tout est possible dans ce pays. Sans la paix, rien n'est possible. La deuxième priorité, c'est sauver les vies. C'est une chose très simple, mais très, très importante et très aiguë en même temps. On a plus que 10 millions de personnes, dont 50% de la population du pays, qui ont besoin de l'aide humanitaire. Et c'est vraiment une aide humanitaire très basique, très simple. Aide alimentaire, des médicaments essentiels, de l'eau, de l'assainissement. Des gens qui survivent presque ou juste dans une situation extrêmement grave et difficile d'écrire vraiment plus que ça parce qu'on est dans une situation presque sans espoir.
Est-ce que l'OCHA, est-ce que les humanitaires ont prévu de continuer à fournir cette aide sur l'année ?
Bien sûr, pendant 2014, on a eu la possibilité de monter une action humanitaire massive ici au Sud-Soudan et on va continuer avec ça pendant 2015. Je suis convaincu que les bailleurs de fonds vont appuyer les agences onusiennes, les ONG qui travaillent ici parce qu'il n'y a rien d'autre. Il y a un gouvernement qui ne peut pas aider des gens, il y a une opposition qui ne peut pas aider les gens actuellement. Donc, il y a tellement de personnes qui ont besoin de l'aide humanitaire qui m'ont dit même sans vous, il n'y a rien. Donc, je suis bien conscient qu'avec l'appui des bailleurs de fonds, avec l'action humanitaire des agences onusiennes et des ONG, on va pouvoir continuer le programme qu'on a monté ici l'année passée. Mais la vraie solution, c'est la paix. Et c'est une cessation de feu qui est vraiment nécessaire maintenant ici au Sud-Soudan. Les gens ne peuvent plus avec la situation actuelle.
Alors, l'ONU a été apportée en 2014 à vraiment avoir un volet de protection civile, y compris sur les bases de sa mission dans le pays. Est-ce que l'ONU s'attend à jouer ce même rôle au niveau de la protection civile en 2015 qu'en 2014 ?
Effectivement, pendant 2014, depuis le début du conflit en décembre 2013, on a eu des milliers de personnes qui sont entrées dans des bases militaires, les bases de la force de maintien de la paix ici, pour fuir la guerre et pour se protéger. Plus de 100 000 personnes qui restent actuellement sur nos bases. Oui, bien sûr, nos bases sont là pour protéger les civils, pour appuyer les femmes, les enfants, etc., qui ont besoin de l'aide. Et on va continuer avec ça. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a des millions de personnes qui aussi ont besoin d'être protégées. Et la mission maintien de la paix et les agences onusiennes font tout le possible pour les atteindre et être à leur côté pour les protéger. Donc oui, on va continuer avec ça. C'est un défi énorme pour nous, pour toute l'ONU et nos partenaires ici. Mais c'est pour ça qu'on est là. Et j'ai dit au long de 2014 qu'on va rester, on va faire notre travail. Lamentablement, on est dans cet espace ici en Sud-Soudan. On voulait bien être dans un espace de développement, de paix, de construire le pays le plus jeune au monde. Mais lamentablement, il y a eu ce conflit qui continue même aujourd'hui.
Vous avez justement souligné qu'en fait, c'est la paix, la cessation des hostilités et le retour à la paix qui est essentiel pour changer la situation. Où en sommes-nous dans ce processus politique et dans les négociations de la paix ?
Écoutez, franchement, je suis un peu déçu avec le manque de résultats concrets dans ce processus de paix. Il faut reconnaître une chose, que ce n'est pas la communauté internationale qui va imposer la paix ici. Ça doit être une paix sud-soudanaise, une paix qui arrive grâce au travail des sud-soudanais. Donc c'est vraiment à eux, les leaders ici, de négocier avec un esprit constructif et avec un savoir-faire de vouloir reconstruire ce pays et donner un esprit de réconciliation entre les communautés qui ont participé dans ce conflit.
Grâce à la ratification par le Costa Rica le 14 janvier 2014 du troisième protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, il était prévu que le protocole entre en vigueur le 14 avril de la même année. Ce dispositif juridique donne aux enfants dont les droits ont été violés la possibilité de porter plainte auprès du Comité des Nations Unies pour les droits de l'enfant. Nous rediffusons aujourd'hui les explications de Marta Santos Pais, la représentante spéciale du secrétaire général chargée de la question de la violence faite aux enfants. Des propos recueillis par Christina Silvero.
C'est très important que la ratification du Costa Rica ouvre la porte à l'entrée en vigueur de ce troisième protocole à la Convention des droits de l'enfant. Et cette ratification ait lieu de façon très spéciale pendant l'année où la communauté internationale commémore le 25e anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le protocole est le troisième qui a été adopté pour compléter la Convention et il introduit un système de plainte pour que le comité relatif aux droits de l'enfant puisse se pencher sur des situations où il y aura une violation des droits de l'enfant. Donc le protocole reconnaît que les enfants ont des droits fondamentaux et que lorsque ces droits sont négligés, ne sont pas respectés, on ne pourra pas silencier ces situations et il faudra donner aux enfants des moyens de recours effectifs qui permettront de rétablir leurs droits, de les appuyer et d'assurer la réintégration des enfants qui peuvent être victimes de ces violations.
Alors justement, qui peut porter plainte? Et s'il s'agit des enfants, effectivement, comment est-ce qu'ils peuvent porter plainte?
Alors, le protocole reconnaît qu'il y aura des situations où les enfants seront trop petits, trop vulnérables ou dans une situation de risque qui ne permettrait pas qu'eux directement pourront être en mesure de déposer une plainte. Mais le protocole reconnaît qu'il se peut que d'autres personnes, des institutions de défense des droits de l'enfant, par exemple le père, la mère, un ami, un avocat, pourra introduire au nom de l'enfant victime une plainte devant le comité des droits de l'enfant. Mais la convention dans son ensemble pourra faire l'objet d'une plainte. Par exemple, un enfant qui se voit interdire le droit à accéder à une école parce qu'il vient d'un autre pays, parce qu'il est migrant dans un pays. Ou la situation de l'enfant qui se voit privé de liberté sans aucune raison, simplement parce qu'il est abandonné. Toutes ces situations qui représentent un déni des droits fondamentaux de l'enfant pourront faire l'objet d'une plainte. Le protocole admet aussi qu'une plainte soit déposée par un État contre la violation des droits de l'enfant par un autre État.
Alors, je suis un enfant et j'ai fait l'objet d'une violence.
Alors, l'enfant peut s'adresser à un défenseur des droits des enfants, au cas où il existe dans le pays, et demander de l'aide, raconter son histoire. Il faut que la plainte soit présentée d'une façon écrite. Il faut que les faits soient établis. Il faut qu'il y ait des preuves que quelque chose de pas correct s'est passé. Le comité va recevoir une plainte qui est décrite d'une façon complète, avec les moyens de preuve, pour permettre d'inquiéter sur la situation et de demander à l'État de donner son point de vue.
Mais ça, c'est une fois la voie locale et nationale
épuisée. Donc, si jamais, pendant trop longtemps, il n'y a pas de réponse de la part de l'État, s'il n'y a pas de solution qui, en fait, mette fin à la violation des droits de l'enfant, accorde une réparation, identifie qu'est-ce qui n'était pas correct et qu'est-ce qui devrait changer, alors le comité des droits de l'enfant pourra être impliqué.
Donc, c'est un moyen de faire pression quelque part?
De faire pression, mais d'obtenir une décision. Une décision qui inclura non simplement la reconnaissance de la violation des droits de l'enfant, mais qui présentera à l'État des recommandations que l'État devra suivre. Par exemple, changer la législation, reconnaître le droit à la réparation à l'enfant victime. Et le comité pourra se réunir périodiquement avec les États pour voir quel était le suivi assuré aux différentes plaintes qui ont été établies par le comité.
C'est ainsi que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. À demain, même heure, même fréquence.